Radio Synergie URPCI vous propose le programme Radio Action Citoyenne pour des élections inclusives et apaisées en Côte d'Ivoire avec le soutien financier de l'ambassade des États-Unis.
Merci de votre fidélité à nos programmes et bienvenue dans cette émission qui reçoit ce soir deux invités. Il s'agit de Ben Diakité de la Radio de la Paix. Ben Diakité, bonsoir.
Bonsoir Liébé.
Avec nous également dans cette émission, Alain Longué de la Radio La Voix du Guémon. Alain Longué, bonsoir. Voilà, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit dans cette émission pour parler de ce programme des visiteurs internationaux des États-Unis, programme auquel vous avez pris part récemment, Ben Diakité.
Oui, tout à fait, c'est bien cela, c'est un voyage auquel nous avons participé, Alain Longué et moi-même, plus d'autres amis qui étaient donc en Côte d'Ivoire ici, nous avons participé à ce voyage.
Et on vous reçoit donc cet après-midi pour partager cette expérience-là avec ces milliers d'auditeurs qui nous écoutent. Alain Longué, vous intervenez depuis Diokoué, c'est bien cela?
Oui, effectivement, depuis Diokoué.
Parlez-nous donc de ce voyage-là aux États-Unis, Ben Diakité. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans ce voyage-là?
Bonjour l'IME, bonjour donc à tous les auditeurs de Radio Yopougon, la radio qui nous reçoit dans le cadre donc du compte-rendu de ce que nous avons vécu aux États-Unis. Il faut dire que c'était un voyage qui devrait se faire normalement en présentiel. Malheureusement, compte tenu de la situation de la COVID, nous n'avons pas pu voyager, mais nous étions aux États-Unis à travers donc Internet. Ce voyage nous a permis de découvrir beaucoup de choses aux États-Unis, notamment les institutions américaines, de discuter aussi avec les partis politiques qui animent donc la vie politique aux États-Unis, de discuter aussi avec des responsables de médias aux États-Unis, de discuter aussi avec des personnes en charge de la sécurité dans un État ou dans une ville aux États-Unis, également de discuter avec des responsables de musées pour voir comment est-ce que les musées des États-Unis rendent hommage aux anciens à travers donc les musées et les arts, et aussi de discuter avec les familles de tous les jours, comme on dit, les familles qu'on connaît de leur vie aux États-Unis, comment elles vivent, comment elles appréhendent la vie en société. Également, il nous a été permis de discuter et d'échanger avec des femmes dynamiques qui essaient de voir comment on peut faire participer les femmes aux élections aux États-Unis. Donc, bref, on a rencontré beaucoup de groupes sociaux dans différents domaines, à la fois des experts dans différents domaines, pour essayer de partager avec nous la vie aux États-Unis.
Alain Longué,
oui.
Dites-nous, qu'est-ce que vous avez retenu de ce voyage virtuel?
Effectivement, comme l'a dit Ben Diakité tout à l'heure, ça a été enrichissant. Nous avons commencé du 17 août au 14 septembre. Ça a été un voyage qui nous a permis, chacun à tirer peut-être assez de leçons dans son domaine, mais moi particulièrement, j'ai aimé d'abord l'organisation de tous les États américains, qui sont des États autonomes, mais qui fédèrent en tout ce qui concerne le processus démocratique là-bas. Et puis, j'ai été marqué par, comme l'a dit Ben tout à l'heure, ces femmes leaders qui, à un moment donné, ont compris qu'il fallait révolutionner la gente féminine et qui sont mises au devant de la scène politique. Et puis, j'ai su qu'aux États-Unis, il n'y avait pas seulement que deux partis. On voit habituellement les démocrates et les républicains, mais on nous a dit qu'il y a assez de partis politiques aux États-Unis. Mais vraiment, ça a été pour moi quelque chose de nouveau. J'ai pensé qu'il n'y avait que deux partis. Et puis, on a appris à savoir le fonctionnement réel de l'État, le fonctionnement réel du processus démocratique aux États-Unis. Et puis, j'ai été marqué par cette visite virtuelle de la ville de Washington, où il y avait assez de musées. Et c'était une ville historique. Et là, on a appris que toute l'histoire des États-Unis s'est résumée donc à ces monuments qu'on voyait, à ces routes qu'on voyait, à ces zones marquées qu'on voyait. Et ensuite, on a appris que chaque État avait ce genre de monument. En tout cas, c'était fort enrichissant.
Alors, les États-Unis sont dans une année électorale, tout comme la Côte d'Ivoire. Vous avez dit plusieurs partis aux États-Unis, mais on ne parle très souvent que des démocrates et des républicains. Ben Diakité, comment est-ce que tout cela est organisé?
Alors, il faut dire que la vie politique aux États-Unis sont dominées malheureusement par ces deux grands partis et donc qui essaient de tirer. Mais comme Alain l'a eu à le dire, il y a beaucoup d'autres partis. Il y a le parti des chasseurs, le parti des... Il y a beaucoup de partis. Mais il faut dire que les deux grands partis aux États-Unis sont les démocrates et les républicains. Ce qui est intéressant dans la démarche américaine et ce qui a retenu moi particulièrement mon attention, c'est la capacité des Américains à faire confiance aux institutions qui organisent les élections chez eux. Les Américains font confiance aux institutions qui ont en charge les élections chez eux, et le système électoral américain est un système qui n'est pas forcément le modèle qu'on a chez nous ici. Vous avez par exemple chez eux des systèmes avec des grands électeurs. On vote pour choisir des grands électeurs, et ce sont ces grands électeurs qui, à la fin, vont voter le président. Donc, vous voyez que c'est une démocratie, je vais dire, on va dire, si je peux m'exprimer moi, hein, je vois ça comme une démocratie semi-directe. La population ne vote pas directement le président, la population vote pour avoir les grands électeurs, et ce sont ces grands électeurs qui après vont voter pour le président. Donc c'est ça qui a retenu mon attention. Mais en même temps aussi, ce que je remarque, c'est que il existe aux États-Unis des organisations qui essaient plus ou moins d'aider les populations à pouvoir participer au vote, à comprendre les programmes, parce que là-bas c'est très très important, les programmes des candidats, mais surtout l'argent aussi, comment mobiliser les ressources pour pouvoir participer aux élections. Donc ils ont des organisations, ils ont des spécialistes des médias pour communiquer à la fois aussi sur les programmes des candidats, mais surtout pour lever des fonds, parce qu'une campagne aux États-Unis, ça coûte énormément cher, ça coûte beaucoup d'argent. Donc il faut pouvoir voyager, il faut pouvoir mobiliser et il faut pouvoir travailler. Et ce qui est intéressant sur les Américains, c'est leur capacité aujourd'hui à pouvoir adapter donc le contexte électoral à la situation de la COVID. Donc ils vont beaucoup communiquer, parce que le corps à corps, machin, ils font beaucoup de corps à corps maintenant, ils vont beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux, ils vont beaucoup distribuer les flyers, donc ça va induire des coûts. Mais vous avez des personnes qui sont là, des spécialistes pour mobiliser des ressources, et ils travaillent pour. Mais tout ça aussi, c'est contrôlé. Vous avez l'argent public aux États-Unis, c'est contrôlé. Vous avez des institutions fortes qui après vont vérifier le montant que vous avez mis dans votre campagne. Vous allez voir pour voir qu'est-ce que vous avez fait de l'utilisation de l'argent public. Donc, ce qui est bien, le candidat, il ne se contente pas de l'argent public, et l'argent public ne représente pas, je vais dire, la majorité des ressources du candidat, mais ce sont les donateurs, les citoyens lambda qui essaient de financer la campagne de celui qu'ils estiment qui peut représenter valablement leurs intérêts.
Et vous l'avez dit, le contrôle de la gestion de la chose publique est un aspect important.
Ah oui, c'est très 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 important. En toute chose, hein, de tout point de vue. Vous avez non seulement les structures étatiques qui veillent à cela, mais vous avez aussi les médias qui contrôlent. Donc vous ne pouvez pas jouer à dilapider ou à utiliser à d'autres fins l'argent public, bien entendu, parce que chez eux, il faut rendre compte de l'utilisation qu'on a eu à faire de l'argent public. C'est à la fois en amont, pendant et après. Donc, attention, si vous avez dévié, si vous avez fait une utilisation abusive de l'argent public, c'est sûr que vous serez sanctionné.
Alain Longuet, vous avez suivi le processus électoral en cours aux États-Unis. Dites-nous, comment est-ce qu'on peut adapter ça au modèle ivoirien?
Oh, ça sera assez complexe à notre niveau. Ça sera très difficile. Parce que là-bas, ils ont une maturité de comprendre que le président de la République est désigné à travers différents échelons. Comme l'a dit tout à l'heure Ben, il y a les grands électeurs. Donc, on désigne ces grands électeurs-là à travers ce processus électoral en interne, et ces grands électeurs choisissent. Pourtant, chez nous, c'est directement le peuple. Hein. Mais j'ai été, par exemple, lors de notre visite, quand nous avons reçu Ami pour les démocrates et Joe et Elliot pour les républicains, j'ai retenu, par exemple, que cette année, la COVID-19 a imposé de nouvelles méthodes de vote au niveau des États-Unis, vote par courrier, et a modifié les stratégies de campagne, par exemple, à travers le téléphone, le mail, les courriers. Et cette nouvelle stratégie a augmenté le coût des budgets des campagnes des partis. Donc, ça nous démontre que le système électoral qui est pareil en ce qui concerne la politique de financement des campagnes, Mais contrairement aux États-Unis, le candidat du parti n'est pas voté par les membres du parti. Il est plutôt désigné naturellement en tant que président du parti. Je ne sais pas si vous comprenez. Mmh. Alors que chez nous, on a l'habitude peut-être de vouloir aller aux primaires, etc. Mais déjà pour être leader d'un parti, eh bien, y a ce choix naturel qui se fait en fonction de quelques aptitudes que vous avez. Et après cela, vous, maintenant, vous alliez compétir au niveau important. Donc moi, je pense que ce système-là, pour que ça soit adapté chez nous, ça sera un peu compliqué, un peu complexe. D'accord. D'abord, c'est des États réunis, c'est plusieurs États réunis qui ont des États un peu souverains, mais au niveau du processus électoral, qui se retrouvent en termes de sénateurs, etc. Mais chez nous, c'est directement le peuple qui désigne le président. Mais ce qui peut, où il peut avoir des accointances, c'est concernant le processus lui-même, le processus électoral lui-même. Si on va un peu à la base, comment se font, je vais dire par exemple, chez nous on dit ceux qui commissionnent l'électorat indépendance, comment sont identifiés les potentiels électeurs, est-ce qu'il y a une impartialité, etc., etc. C'est ça le problème ici ou en Afrique. Mais je dis, tout est tellement clair. Et même les médias rentrent en scène. Chez nous, j'ai remarqué durant notre voyage que le journaliste est libre. Il n'est même pas inquiété. Il peut être un journal d'investigation, il peut être un journal à la source des partis politiques, mais ils sont libres de travailler. Il n'y a pas de contraintes. Donc, ils sont toujours à la recherche des scoops, ils sont toujours à la recherche des informations qui puissent nuire ou bien être avantageux à un candidat. À ce moment-là, le candidat est obligé de toujours rester dans la ligne droite, ne pas violer quoi que ce soit, parce que les journalistes sont à leur trousse. Et là, ça m'a plu, hein. Ça m'a plu de savoir que le journaliste est carrément libre, hein. Comparativement à nous, dans les tropiques, où le journaliste est contraint de ne pas dire certaines choses. Vraiment, il y a une large différence.
Alain, on aura l'occasion tout à l'heure de parler de ce que ce voyage va apporter à la pratique de votre métier en Côte d'Ivoire désormais. Mais dites-nous, ceux que vous avez rencontrés là-bas, toutes ces personnes avec qui vous avez échangé, quelles sont leurs attentes vis-à-vis d'un pays comme la Côte d'Ivoire?
Eh bien, voilà pourquoi même ce voyage a été fait par l'ambassade des États-Unis. C'était pour voir comment est-ce que ça pouvait être utile pour l'amélioration de notre démocratie. Effectivement, tout le monde attendait, surtout tous ceux qui étaient nos guides, ont apprécié les différentes questions qu'on posait. Parce que beaucoup ignoraient un peu le fonctionnement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, ils étaient tout le temps étonnés, charmés en même temps des questions qu'on leur posait sur ce qu'ils pensaient déjà être des acquis à notre niveau. Donc, je pense qu'ils peuvent désormais savoir ce qu'il faut être un peu plus regardant. Moi, mais j'ai posé la question, je ne sais pas si Ben se souvient, pour dire qu'on a l'impression que les États-Unis ne sont pas trop intéressés par le fonctionnement politique de notre pays, comme par exemple la France. Et là, ils ont dit non, mais seulement ils seront plus attentifs, plus regardants. Vous voyez maintenant que, à cause de ce processus électoral et démocratique, il y a beaucoup d'actions des États-Unis sur le terrain, à travers les différents projets qui tentent pour s'imprégner réellement du déroulement de différents processus électoraux au niveau de la Côte d'Ivoire de certains pays. Donc je pense que ça a été utile pour eux de savoir un peu plus sur le processus électoral en Côte d'Ivoire.
Ben Diakité.
Oui, sur la même question, Monsieur Liemé, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense qu'Alain a essayé d'aller dans le même sens que moi. Je pourrais dire qu'est-ce que les Américains attendent de nous, c'est de voir de toute façon la Côte d'Ivoire par rapport aux États-Unis, au-delà de tout, nous sommes quand même le premier producteur de cacao. Le cacao, les Américains, le chocolat, ils en raffolent. Donc ils savent quand même que c'est le premier pays producteur de cacao, au-delà de tout. Et puis ils connaissent quand même plus ou moins les intellectuels. Je sais qu'ils connaissent quand même parce que l'ancien président Félix Houphouët-Boigny quand même a été en visite là-bas. et a pu échanger donc avec l'un des présidents mythiques aux États-Unis. Hein. Donc tout le monde sait que Kennedy est un chef d'État américain qui a marqué l'histoire du monde. Donc Faure ayant effectué un voyage aux États-Unis, donc ils savent plus ou moins ce qu'était. Mais aujourd'hui avec le cacao, le chocolat, je pense que les Américains savent ce que nous sommes. Mais ce qu'ils peut-être regardent, parce que il faut comprendre que de la situation de la Côte d'Ivoire, nous sommes quand même la porte d'entrée des pays de la sous-région. Donc un 5 francs investi en Côte d'Ivoire, c'est quand même 10 francs aussi investis au Mali, au Niger et tout cela. Donc c'est de comprendre l'importance de la Côte d'Ivoire dans ce processus. Et puis aussi, ils veulent comprendre comment on gère nous-mêmes aussi notre processus électoral. Parce que n'oublions pas qu'en 2010, malheureusement, le processus électoral en Côte d'Ivoire a débouché sur 3000 morts. Et donc, ils sont aussi en train d'attendre de voir en 2010 qu'est-ce que cela peut donner. Est-ce qu'on a suffisamment tiré les leçons de ce qui s'est passé en 2010 pour qu'en 2020, on ait une élection apaisée? Donc, ce sont des interrogations et que tout le monde regarde. C'est que ce qui est intéressant, parce qu'on a vu quand même que l'élection aux États-Unis, c'est vrai que ce n'était pas du tout facile entre le président actuel et la candidate des démocrates qui était Hillary Clinton. C'était vraiment à couteau tiré, c'était dans un mouchoir quand même. Le vainqueur est sorti. Mais les États-Unis ont gardé le calme, la stabilité. Ils ont pu gérer cette crise et ils sont passés à autre chose. Donc c'est ça aussi, cette capacité de la Côte d'Ivoire à pouvoir gérer ces contradictions politiques. C'est surtout ça que les Américains attendent de voir, comment nous allons pouvoir peut-être gérer cette question. Et puis, deuxièmement, l'une aussi de leurs interrogations, c'était de dire, peut-être comme Alain le disait, on regarde peut-être juste d'un côté, mais nous avons eu à leur dire non, que la Côte d'Ivoire est ouverte à tous les partenaires comme ailleurs, mais il suffit qu'ils viennent, il y a de la place pour tout le monde. Et parce qu'ils étaient aussi un peu craintifs des Chinois, des relations aujourd'hui que les pays de l'Afrique de l'Ouest ont avec la Chine, parce qu'ils estiment, ah, attention, est-ce que vous regardez, on leur a dit non, que l'Afrique travaille avec tout le monde. Les Américains sont les bienvenus, les Chinois sont les bienvenus, également les Français sont les bienvenus, mais il faut quand même que ça soit une coopération win-win où chaque État gagne. Et nous, on leur a dit qu'on avait besoin qu'ils nous aident à renforcer notre éducation, notre santé, qu'ils nous aident à pouvoir installer des hôpitaux, à pouvoir avoir le personnel technique pour pouvoir soigner nos populations partout sur le territoire et aussi à éduquer. Donc, je pense qu'il y a des programmes comme ça, notamment le MCC avec la Côte d'Ivoire, ou des collèges de proximité où d'autres investissements sont prévus en termes d'éducation et de la scolarisation de la jeune fille. Donc, bref, c'était vraiment un voyage enrichissant où ils ont appris de nous, nous aussi on a appris d'eux. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire.
Et si en quelques mots, Ben Diakité devrait résumer l'expérience acquise au cours de ce
Alors,
voyage?
Alors, bon, particulièrement dans mon domaine qui est les médias, parce qu'on a vu quand même que les journalistes là-bas étaient très regardants, surveillaient le processus démocratique. Oui, parce qu'il ne faudrait pas que nous soyons des acteurs passifs. Il faut que les journalistes soient des personnes qui puissent assister le processus électoral et dire quand ça dévie, non, vous avez dévié, et dire quand c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et ça, c'était avec les journalistes américains. Ils essaient pour lutter contre ce qu'ils appellent là-bas les fake news, c'est-à-dire des informations qui ne sont pas forcément justes et vérifiées, qui sont parfois données par des hommes politiques. Ils traquent. C'est-à-dire, lorsque vous êtes homme politique, vous faites une déclaration, les médias vont voir la source, la véracité, et quand c'est faux, on vous dit c'est faux. Ah, ici, c'est pas toujours vérifié. Donc, ça aussi, c'est cette capacité des médias à être des gardiens de la démocratie. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Et dans notre travail, c'est de voir aujourd'hui, c'est de prendre un peu de recul par rapport aux informations qu'on reçoit, même si ce sont des informations qui viennent des autorités ou bien des grands lutteurs, c'est de pouvoir vérifier et recouper avec d'autres sources pour voir si c'est vrai ou pas.
Alain Longuet, comment résumer en quelques mots l'expérience acquise lors de ce voyage?
Il faut reconnaître que les États-Unis, c'est un beau pays, c'est vraiment une puissance à tous les niveaux, mais le projet IVL... virtuel sur la démocratie, les procès électoraux, hein, à mon niveau, ont largement répondu à mes attentes. Et il m'a permis de combler au déficit d'informations et connaissances sur l'organisation des différents États et la structuration du processus électoral américain. Bon, en somme, toutes les réunions que nous avons eues s'avéraient importantes et équivalentes à la fin. Mais néanmoins, j'ai aimé deux réunions. Les électrices et ses nouveaux leaders américains. En tant que journaliste, j'ai aimé aussi la réunion qu'on a eue avec Joel Goetz, le rédacteur en chef du magazine Bright, Je sais que Ben se souvient, où là-bas, pour ne pas reprendre les propos de Ben, le journaliste est impliqué dans ce procès électoral. Nous, on découvre les fake news, mais eux, à ce niveau-là, ils ne sont plus là-bas. Ils ont tout pour démontrer que l'information que vous donnez maintenant n'est pas vraie. Voyez, mais ils sont spécialisés dans les scoops. C'est-à-dire que chercher une information à la seconde sur tout ce qui se passe au niveau de ce procès électoral-là. Et c'est là que j'ai compris que la technologie, tout est mis en œuvre pour que le journaliste puisse s'épanouir, travailler dans toutes les conditions. En tout cas, Ali, je ne sais pas comment les traduire, mais ça a été tellement puissant que nous, on se plaignait au départ, on se plaignait un peu, mais vers la fin, on supportait mal qu'on arrivait au terme de ce programme-là. Mais on peut retenir que aux États-Unis, c'est la transparence, c'est la clarté, c'est les véritables débats, c'est des sujets, des programmes que les candidats proposent à la population. Et on touche tous les programmes, c'est-à-dire tous les programmes, allant même au niveau du concept religieux, des programmes en termes d'investissement, en termes de tout ce qui concerne la population, tout est traité. Et le journaliste est là pour relayer tout cela. En tout cas, je pense qu'on a eu un programme très enrichissant. Je pense que c'est ce qui me met à l'aise aujourd'hui, même à Dioukoué. Je fais partie de l'observatoire de ceux qui veillent sur cette élection. J'observe et j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est intéressant de pouvoir orienter certaines personnes vers la manière de se tenir. Voilà un peu dit.
Et Alain Longuet, comment est-ce que ce voyage va impacter votre métier de journaliste?
Eh bien voilà, ça c'est une très bonne question, Lee. D'abord, je suis venu, j'ai fait une restitution à mes collègues. J'ai compris qu'il y avait certaines émissions qu'on devait faire pour expliquer un peu ce qu'on entend par la démocratie. J'ai créé une émission qu'on appelle Au-delà de nos frontières, où j'ai commencé à parler en tant que bon américain sur la société américaine même. Et puis, au niveau même du programme, de façon plus large, on a commencé à traiter des thématiques allant dans le sens de la cohésion de la personne et surtout de comprendre le mieux fondé d'une élection. Vous savez que je suis dans une zone très sensible, mais cette année, on a tout fait pour maîtriser ces personnes qui ne doivent comprendre qu'une élection doit être bénéfique à la population et non une élection doit être partisane de violence. Donc, à ce thème-là, j'ai essayé de, en tant que directeur du programme, bien sûr, élargir le programme dans ce sens-là. Et puis, des thématiques qu'on a eues à traiter au cours de ce programme, je les ai adaptées à ma région. Et on essaie de copier un peu ce qu'on a fait. Maintenant, moi, ma découverte, c'était la vidéoconférence. C'est la première fois que je me faisais. Il y avait beaucoup de problèmes techniques au départ, mais Dieu merci, on a su s'adapter. Et il n'y a rien de tel, quoi, que devant Ben et puis Abidjan, je voyais que c'était Elisabeth depuis les États-Unis. En tout cas, c'était intéressant. MS depuis Abidjan, l'ambassade. Et c'est une bonne expérience. Mais je peux vous dire que j'ai pu mettre à profit ma radio en reprenant les différentes thématiques, en essayant de les adapter à mon environnement ici.
Ok. Ben Diakité, comment comptez-vous donc mettre à profit ce voyage-là, l'adapter aux réalités ivoiriennes?
Oui, je pense que c'est déjà fait parce que, comme Alain le disait, aujourd'hui nous avons nous-mêmes aussi essayé de mettre en route une émission qu'on appelle Pandémie des Fake News, qui est diffusée tous les jours, pas tous les jours, tous les mercredis à 14h30 sur Radio de la Paix, qui essaie donc de montrer aux journalistes comment on peut faire, on peut checker, c'est-à-dire la vérification d'informations juste ou fausse. Donc ça, c'est déjà fait. Et puis deuxièmement, ce voyage nous a permis, même nous, Ivoiriens ici en Côte d'Ivoire, de nous connaître et d'élargir notre portefeuille d'experts pour nos émissions. Je salue au passage le père Lorion, je salue Conan, je salue donc Longue aussi qui est avec moi et les belles dames qui étaient avec nous durant Okoma et Miss Ibo qui nous ont accompagnés durant ce voyage. Donc ça nous a permis aussi d'avoir, comme on va dire, un portefeuille d'experts local pour des questions de droits de l'homme, pour les questions de cohésion sociale, pour les questions de jeunesse, pour les questions électorales, mais également d'avoir des contacts à l'extérieur, aux États-Unis, des experts en élections avec qui on peut échanger durablement. Donc nous avons mis en place des émissions que nous suivons dans le cadre de ce processus, mais surtout ça nous a permis d'avoir des outils, hein. Pour moi, il y a deux aspects qui m'ont vraiment intéressé. Je vais aller rapidement parce que le temps qui nous est imparti est arrivé à terme. Notamment, c'est l'engagement des jeunes volontaires dans les processus électoraux. Tout n'est pas argent, parce qu'ici, on a tendance à vouloir tout faire payer. Quand tu demandes à quelqu'un, viens faire quelque chose, tu me payes combien? Je gagne quoi? Non. Dans les processus électoraux, les jeunes s'engagent, ce sont des volontaires. Et deuxièmement, les femmes. Les femmes sont organisées. Vous avez comment des cadres de l'administration, des femmes politiques donnent de leur temps pour organiser les jeunes filles à apprendre les processus électoraux, à participer. Et on fait participer tout le monde, toute la classe. Ah, ça, franchement, ce sont des choses qui nous ont vraiment marquées. Et je pense qu'on peut expérimenter ça chez nous ici. Donc, c'est ce que je retiens de ce voyage. En tout cas, merci à Radio Yopougon. Merci à vous-même, Lee, pour cette chance que vous nous donnez de pouvoir partager avec nos auditeurs tout ce que nous avons vécu comme expérience aux États-Unis à travers ce voyage-là.
Ben Diakité Souleman, vous êtes journaliste à la Radio de la Paix. Avec nous, il y avait également Alain Longuet, journaliste à la radio La Voix du Guémon, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tous deux, vous avez participé au programme des visiteurs internationaux aux États-Unis. Vous étiez avec nous donc pour partager cette expérience avec nos auditeurs. Merci d'avoir donc répondu à notre invitation.
Oui, merci Lee. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir partager cette expérience-là. Et au nom de tous nos auditeurs de radio, La Voix du Guémon, c'est à Dioukoué. En tout cas, c'est vraiment un réel plaisir de partager cette expérience avec vous. Merci bien à Radio Yopougon, merci à Lee et merci à Ben.
Merci aussi à Radio Yopougon, c'est la chaîne des générations, on vous aime. Et puis merci pour tout ce que vous faites. Cohésion, et vraiment vous êtes une grande radio et vous êtes resté dans la tradition, la chaîne de toutes les générations. Bravo et félicitations, bonne continuation à vous.
Merci chers invités, cette émission est terminée. À ce micro, il y avait l'IME, la technique a été assurée par Lisier Apollinaire. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme à l'écoute de Radio Yopougon.
Radio Synergie URPCI vous a proposé le programme Radio Action Citoyenne pour des élections inclusives et apaisées en Côte d'Ivoire avec le soutien financier de l'ambassade des États-Unis.